des rencontres particulières. Nous ne sommes nous-mêmes qu'en sortant de nous-mêmes. C'est le sens de cette émission. Aller à la rencontre de personnalités insolites et étonnantes. Bienvenue à la saison 3 des rencontres particulières. Cette année, encore nous irons à la découverte de personnes au parcours atypique. Quelquefois, nous prendrons des chemins de traverse, parfois géographiques ou historiques. Toujours accompagné par Alix, mon enquêtrice et ma muse, qui prépare toutes les émissions et qui sera à l'origine des découvertes que je propose à votre écoute. Très chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2026 et j'espère que vous avez bien profité des fêtes et que vous êtes en pleine forme. Pour commencer l'année, nous allons regarder dans le rétro. Une fois n'est pas coutume, des rencontres particulières remontent le temps jusqu'à l'année 2002. Société, politique, sport, culture, nous allons rembobiner le temps vers cette année si particulière. Donc vous l'aurez compris, il n'y aura pas d'invité sur cette émission, mais plutôt un panel d'archives sonores en fonction des thèmes évidemment que nous allons aborder. Au début, il y a une date, 2002. Une date presque ordinaire, presque sage. Et pourtant, une date qui dans l'histoire récente de la France résonne comme une charnière. Une année où on a changé de monnaie, comme on change de peau. Une année où les écrans de nos téléphones se sont soudain mis à clignoter pour transmettre des messages que l'on ne prononçait plus. Une année électorale qui a failli tout renverser. Une déroute sportive que personne n'avait vu venir. Une année de torrents, d'eau déchaînée, de rues remplies et de morts, hélas aussi. Une année qui a basculé, lentement d'abord, puis avec fracas.
Des rencontres particulières. Guillaume sur Radio Escapade.
L'année commence, comme toutes les années, par ce fameux réveillon du 31 décembre 2001, mais qui a quelque chose de très particulier lorsque tout le monde se souhaite la bonne année à partir du 1er janvier 0h. En effet, ce n'est pas forcément le champagne que l'on va chercher pour fêter la nouvelle année. C'est dans les distributeurs à billets que l'on va retirer les premiers euros qui viennent d'arriver.
Des étoiles plein la tête. Cela voulait être les premiers à toucher l'un des 1000 billets collector distribués à la Poste du Louvre. Pour les moins rapides, il y avait plus classique. Les distributeurs automatiques ont été pris d'assaut dès minuit.
Alors les mains hésitent. On regarde ces billets colorés comme des étrangers fraîchement arrivés. On les tâte, on les soupèse. L'euro, c'est 6 lettres qui ce jour-là ne sont pas du tout encore un réflexe, mais plutôt un trouble. Alors, 12,50 €, combien ça fait en francs? On pense à convertir, on ramène tout, on compte plusieurs fois. Et puis, au fur et à mesure que la monnaie se répand, eh bien, les rumeurs aussi se répandent. Celles des prix qui vont grimper sans prévenir. Celles de l'inflation galopante à cause de cette monnaie dont personne, au départ, ne comprend grand-chose, notamment dans ses conversions. Donc une impression, un murmure persistant, une inquiétude molle mais durable. 2002 commence donc par un changement silencieux, presque intime. Avant les colères, avant les manifestations, avant les chocs, il y a ce geste simple, tendre un billet nouveau.
Les tracasseries, c'est pour demain. Et demain, on s'occupera de l'euro, du change, de la conversion. Et ce soir, c'est la fête.
Hier, les taxis, eux aussi, ont été confrontés à la monnaie unique.
Euros, à 100% euro. Avec un sourire, ils vont payer. Il n'y a pas de problème. L'euro, les cents, les euros. Il n'y a pas de problème. Les copecs.
Des copecs, peut-être pas. Mais dans ce kiosque ouvert toute la nuit, les premiers euros sont bien sortis des porte-monnaies. Des porte-monnaies de touristes, en tout cas.
On a apporté des euros d'Allemagne. On a eu les premiers kits.
Et après ce réveillon monétaire, l'euro pourrait peut-être même influencer les cartes de vœux.
Je vous dis bonne année avec l'euro.
Euro année.
Téléphone pour écrire, il fallait y penser. La méthode est simple. À chaque touche correspond un chiffre, bien sûr, mais aussi des lettres. Andrea est une accro, elle envoie une soixantaine de messages.
Dans les poches, une autre révolution est en marche. Une révolution de lumière verte, de lettres capitales, de 160 caractères maximum. Le SMS. Jusqu'à là, la curiosité technique n'avait pas beaucoup influencé les modes des premiers téléphones. Mais il devient rapidement un réflexe. On ne téléphone plus, on écrit, on réduit, on abrège, on invente. Les plus jeunes vont bâtir un langage instantané, façonné pour la vitesse, l'économie de mots, la connivence. Les plus anciens hurleront au fait que la langue française est en train de se perdre.
Le SMS sera-t-il l'ennemi de l'orthographe ?
Que l'on ne va plus écrire sur le papier, un petit peu comme l'arrivée du téléphone. Personne ne le mesure réellement encore, mais dans ces messages courts, dans cette nouvelle façon de dire « j'arrive », « je rentre tard », « je pense à toi », dans ces trois lettres qui font fureur, « lol », c'est notre futur qui est en train de s'esquisser.
Je suis dans le quartier.
Ces adeptes utilisent également des signes de ponctuation pour exprimer des émotions, ce qu'on appelle les smileys.
Si je vous dis JTGDT, savez-vous qu'en presque français dans le texte, il faut lire « je t'aime grave de trop ».
Pendant que les portefeuilles s'habituent, la politique s'enlise. 2002 est une année électorale d'importance. C'est l'année de l'élection du président de la République. N'oublions pas que c'est l'élection préférée des Français depuis 1965. Le duel annoncé, Lionel Jospin, premier ministre du président Jacques Chirac depuis 1997, et la dissolution manquée, contre le président sortant, semble l'affiche annoncée. Personne ne semble y croire vraiment, personne ne semble surtout s'imaginer autre chose. Lionel Jospin, sûr de sa victoire, assis sur un très bon bilan économique, le chômage a beaucoup reculé durant son exercice au pouvoir, ne semble rien voir venir. Mais c'est sans compter sur la roublardise du président en exercice qui va détourner la campagne vers un sujet qui deviendra, comme on dirait aujourd'hui, viral. La sécurité devient, au fur et à mesure des semaines et des mois, la bande-son unique des journaux télévisés.
Traumatisme crânien, multiples points de suture, voici l'état dans lequel ses agresseurs ont laissé Papivoise se retraiter de 72 ans.
Volvoise est un miraculé.
Volvoise, Papivoise, comme on l'appelle dans son quartier, a donc expliqué à ses agresseurs qu'il n'avait rien à leur donner.
Orphelin de père à 5 ans, Volvoise avait construit de ses mains une maison pour sa maman handicapée.
On a brûlé votre maison, c'est ça ?
Voilà ce qu'il en reste, un tas de ruines et de gravats, une maison que Paul avait construite de ses propres...
Pendant ce temps, la gauche plurielle, celle qui a été portée au pouvoir en 1997, se fragmente en une mosaïque de candidatures. Tout le monde veut y être. Les écologistes, avec Noël Mamère, Christiane Taubira pour le Parti radical, Jean-Pierre Chevènement pour la majorité, enfin une majorité présidentielle. Toutes ces candidatures à gauche semblent assez anecdotique, voire pour certaines, folklorique. Jusqu'en avril 2002, c'est une campagne plutôt plate, une sorte de mer d'huile, mais une mer trompeuse qui ne voit pas venir le séisme. Dans l'ombre de ces informations qui inondent les journaux, un homme et un parti tisse sa toile. Et puis arrive le soir du premier tour des élections présidentielles. Comme chaque soir, et comme chaque élection présidentielle, eh bien, il y a un petit côté folklore d'attendre, depuis son poste de télévision, les résultats à 20h. Le soir du 21 avril 2002 aurait dû être un soir de printemps comme les autres, jusqu'à ce que la nouvelle tombe.
Voilà, pour ce premier tour de la première présidentielle du troisième millénaire. Ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen.
J'aurais jamais cru que Le Pen nous montrait autant.
C'est pas possible qu'en France ce soit ça.
C'est un véritable cataclysme.
On n'avait jamais imaginé la défaite au premier tour.
Personne, pour être honnête, ne l'avait pas eu.
C'est vrai que c'est une joie extraordinaire.
Je suis socialement à gauche, économiquement à droite et plus que jamais nationalement de France.
Et F comme fasciste, et F comme fasciste, nous sommes les armes d'immigrés.
Il est fou de rage.
Sa décision est prise dans sa tête.
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique.
Aux heures sombres, les dirigeants de l'extrême droite ont trahi le peuple français.
Un silence. Puis un autre silence derrière le premier. Puis un silence plus lourd. La France se fige. Abasourdi. Dans les rédactions, on recommence les phrases, on vérifie les chiffres, on relit, on doute. Mais non, c'est bien cela. Jean-Marie Le Pen, pour le Front National, est au deuxième tour. Lionel Jospin est éliminé. Le pays, alors, bascule dans la stupeur, puis bientôt dans la rue.
De l'ordre, des manifestations qui se sont poursuivies aujourd'hui un peu partout en France. Alban Micosi, Frédéric Faure. Ils ont 16, 17 ans, trop jeunes pour voter mais pas pour se faire entendre. À Poitiers, ville de Charles Martel, dont l'extrême droite se réclame parfois, 600 lycéens ont improvisé un cortège pour exprimer leurs inquiétudes.
L'extrême droite, c'est pas normal le deuxième tour, je suis désolé, c'est quelque chose qui devrait pas arriver. Et vraiment, faut que ça cesse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous là et on va pas arrêter comme ça.
Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous, il n'y a plus de France.
De Brest à Nice, de La Rochelle à Besançon, on estime à plus de 30 000 le nombre total de manifestants. Gros plan sur Caen, avec la rencontre à la faculté d'étudiants et de lycéens pour une séance d'autocritique.
40% des 18-25 ans n'ont pas voté. C'est-à-dire que 40% des 18-25 ans ont laissé les gens du Front National s'exprimer. Parce que le Front National, son électorat, lui, il se mobilise et il va voter.
Un cortège s'est ensuite formé, fort de 4000 personnes. Il a traversé le centre-ville, beaucoup de jeunes, quelle que soit leur sympathie politique, ont promis de ne pas oublier d'aller voter le 5 mai pour Jacques Chirac, même sans enthousiasme. Même mobilisation donc dans beaucoup de métropoles régionales, comme ici à Lyon, où près de 3000 personnes se sont installées toute la journée sur la place de l'Hôtel de Ville. Autant de manifestations spontanées qui se sont dispersées sans incident. Au moment où démarre à Paris un nouveau rassemblement dans le quartier de la République, 4 à 5 000 personnes à l'appel du Parti communiste, de la LCR ou des Verts, hier encore divisés, la gauche retrouve sur le pavé un semblant d'unité en défilant, faute de savoir vraiment où aller politiquement.
Dans les jours qui suivent ce 21 avril 2002, la jeunesse française et une grande partie de la population descend dans la rue, porte voix à la main, pancarte improvisée, panneau à l'effigie du titre de Libération qui date le 22 avril, non, tout le monde est sur le pied de guerre pour défendre une démocratie qui semble en danger et surtout appelée à un rendez-vous républicain pour le deuxième tour. On n'est plus du tout dans une campagne électorale comme on l'a connue jusqu'à présent, mais dans un espèce de sursaut de la population.
ou Jean-Marie Le Pen. Les résultats dans quelques secondes, ce sont les deux candidats, vous le savez, de ce second tour, configuration inédite. Il s'agit bien sûr de savoir qui est le vainqueur, il s'agit aussi de savoir quelle victoire ce sera ce soir, avec quelle voix et pourquoi faire. C'est bien sûr tout cela l'enjeu de ce second tour. Voilà, dans quelques secondes maintenant, il est 20h. Voici notre estimation des résultats de l'élection présidentielle. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix.
Et lorsque Jacques Chirac est réélu deux semaines plus tard avec 82% des voix, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République, c'est bien plus qu'un chiffre. C'est une barrière dressée dans l'urgence face à un vertige qui aurait pu advenir.
Des rencontres particulières, Guillaume sur Radio Escapade.
Après cette élection présidentielle hors norme et la réélection du président Chirac, une fois que tout le monde pense que la démocratie a enfin été sauvée, la France va pouvoir aller tranquillement vers l'été. Un été qui arrive, un été où on a envie de respirer, de retrouver un symbole positif. C'est aussi, cet été-là, l'année de la Coupe du Monde de football. Rappelez-vous, 1998, la France, pour la première fois, est championne du monde de football sur son territoire. 2000, elle gagne la Coupe d'Europe des Nations. C'est une équipe de football invincible. Et une et deux va citer l'équipe juste avant l'ouverture de cette Coupe du Monde qui se déroule au Japon et en Corée. La France a forcément l'étoffe des géants, les champions du monde, les champions d'Europe. Pourtant, cela commence difficilement par une défaite que personne n'avait vue face au Sénégal, 1-0.
J'ai l'impression que ce mondial, le premier organisé en Asie, va commencer par une mauvaise surprise pour le football français. Voilà, c'est fait. Oui. Victoire du Sénégal à Séoul, 1-0.
Et pas franchement immérité, Laurent.
Et pas franchement immérité, non.
Non, pas franchement immérité, mais je crois qu'on a lieu d'être déçu.
Quoi qu'il en soit, l'équipe va se reprendre. Mais il n'y a pas Zinedine Zidane qui est blessé. Après un deuxième match assez insipide face à un des pays organisateurs, la Corée du Sud, avec un but partout qui n'est pas très glorieux, l'équipe semble complètement éteinte. Les joueurs ne semblent pas vraiment concernés. Et puis, c'est le troisième match, celui décisif pour passer la partie des qualifications et arriver en huitième de finale. La chute est alors brutale. Face au Danemark, la France s'incline 2-0. Un pays à terre, encore un signe que quelque chose décidément tourne de travers. Une humiliation sportive, un miroir étrange de l'atmosphère nationale, la France, pays vainqueur, pays champion du monde en titre, rentre après avoir marqué seulement un tout petit but. Même une défaite de l'équipe de France ne permettra pas aux Français de ne pas passer un bel été. Arrive alors le mois de septembre. Des vacances s'achèvent, la rentrée scolaire se prépare. la vie reprend son rythme. Et soudain, le ciel va se déchirer.
Le vidoule va sortir à l'intérieur de Sommières. Vous devez prendre toutes les mesures concernant les biens et les personnes.
8 septembre 2002, l'alerte retentit dans Sommières. Ici, on a l'habitude des caprices du fleuve, on leur a même donné un nom, les vidourlades. Alors dans le calme, les habitants se préparent à la montée des eaux.
Puis on enlève tout, parce que sinon dans 2 minutes il est là. Hein. Alors bon, si on veut qu'il n'y ait pas trop de dégâts, ben on est bien obligé de faire ça, c'est un peu tôt cette année. Mais...
Des précautions qui s'avéreront dérisoires au regard de cette inondation. En quelques heures, la crue monte de 3 mètres et engloutit tout. Du jamais vu depuis 1958.
On a monté tout ce qu'on pouvait à l'étage, et là on évacue les bêtes, et puis à côté on va évacuer la dame qui a 85 ans, donc on va essayer de l'évacuer et partir, parce que là apparemment ça va monter.
Le lendemain, le jour révèle l'ampleur du cataclysme, l'eau est partout. Les évacuations par hélitruage s'enchaînent, les barques de secours sillonnent les rues de la ville. Dans cette maison, les pompiers vont libérer un homme prisonnier des eaux.
L'eau appuie sur les portes internes et on ne peut absolument pas, il ne peut pas sortir.
Merci.
À Alès, la digue qui protège la ville cède sous la pression des torrents d'eau qui dévalent des Cévennes. Les 2/3 de la cité sont submergés.
Alors, vers 5h au moins 20, c'était l'apocalypse. L'eau est venue de là. Les voitures ont commencé à bouger, nous on a eu peur, pas de pompiers, rien. Sincèrement, on en était blagues.
En aval, la plaine de la Gardoninque entre Nîmes et Alès est dévastée. Ces images, tournées 2 jours après la crue, témoignent de la violence de l'événement. À la Calmette, la solidarité s'organise pour loger les nombreux sinistrés, mais l'inquiétude est encore forte. Des habitants sont coincés dans leur masse, isolés par les eaux du Gardon qui ne veulent pas rejoindre leur lit. Et toutes les communications sont coupées.
Il a dit qu'il avait 1 mètre d'eau et qu'il allait se débrouiller pour sortir. Et depuis, nous n'avons plus de nouvelles.
Le bilan est dramatique dans le secteur d'Alès et de la Gardoninque. On déplore 9 victimes, dont 2 enfants et leur père, emportés par les eaux à Rousson. Mais c'est ici, dans le Gard rhodanien, que le bilan est le plus lourd. 11 victimes en tout. Avec Aramon comme ville martyre, 5 personnes sont décédées dans le village. La digue qui protège la cité a cédé et a plongé les habitants dans une île d'apocalypse.
Il était 10h quand on m'a averti, je m'apprêtais à aller me coucher. J'ai pris la voiture et je suis montée dans la colline. J'ai tout laissé, j'ai pris mon sac, c'est tout.
Oui, c'est ma maison. Oui, en effet. 3 mètres d'eau dedans, donc il n'y a plus rien.
En tout, les inondations du Gard du 8 et 9 septembre 2002 ont fait 22 victimes et plus de 800 millions d'euros de dégâts.
Je vous laisse entendre le témoignage d'Annick Delhomme, qui était à l'époque secrétaire du collège Gaston Doumergue à Sommières. Elle a vécu en direct la montée du Vidourle et l'inondation du paysage de Sommières.
Ben, la journée, en fait, la journée des inondations, moi j'ai ma fille qui est rentrée en 6e. Donc quand on a vu, ça s'est passé en fait, ça a commencé en début de matinée, il a plu énormément déjà dès le dimanche soir, ça c'était un lundi matin. Déjà dès le dimanche soir, il y avait de très 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 gros orages, et en fait c'était vous savez, les épisodes Cévenol, vous avez entendu parler des épisodes Cévenol, et la pluie est restée vraiment localisée sur Sommières, donc c'est pour ça qu'il y a eu une vague énorme de le Vidourle qui a tout balayé. Le petit portillon, quand vous entrez là-bas au bâtiment A, l'eau arrivait au-dessus du portillon. C'était très, et on avait nos bureaux, l'administration était au bâtiment A. Là où il y a la salle de réunion, etc. Alors, pour vous donner aussi un ordre d'idée de l'eau jusqu'où elle est montée, quand il y a eu la décrue, j'ai fait un trait à l'entrée de la porte du bâtiment A, au marqueur, et il y a une plaque qui a été posée avec l'endroit où il y a eu la crue. Donc, quand vous repasserez par là-bas, vous regarderez au niveau de la porte d'entrée, il y a une petite plaque. Essayez d'imaginer que jusque cette plaque, l'eau est arrivée jusque-là dans le collège. D'accord ? Donc, ben, les bureaux étaient en bas, ça a tout embarqué, les dossiers, j'avais les dossiers d'élèves qu'on a retrouvés jusqu'à je ne sais plus où, des poissons, de tout, des bancs, tout ce qui arrivait, des lotissements, avec l'eau, ça s'est arrivé jusque dans la cour. et les sols se sont complètement soulevés et tout était mort en fait, tout ce qui était dans le collège, tout ce qui était au rez-de-chaussée, tout était mort. Tout était mort. Donc il faudrait vous voir les photos qu'on a fait où on voit la crue monter, le vidol qui monte petit à petit pour que vous vous rendiez compte vraiment comment c'était quoi. Mais l'avantage quand même ici, c'est que dès le lendemain, il a fait beau et qu'on a pu commencer à nettoyer, essayer de sauver tout ce qu'on pouvait sauver, les meubles, les bureaux, parce que pendant jusqu'aux vacances de Pâques, on a vécu dans les bureaux avec qu'on avait nettoyé vite fait de la boue, parce que c'était de la boue, et on a fait les bureaux après ici à l'administration. Mais on a été les bureaux qui étaient en bas, au bâtiment A. Voilà. Donc c'était un peu compliqué. Le collège donc a été fermé pendant 15 jours. Et on a réorganisé, ça c'était tout à fait début septembre, et on a réorganisé 15 jours après, on a refait la rentrée des classes en fait. Parce qu'il s'est passé une semaine entre la rentrée des classes et les inondations, et il a fallu qu'on réorganise la rentrée des classes dans des conditions, vous imaginez, un petit peu... compliqué.
Si le mot climat n'est pas encore celui qu'il deviendra aujourd'hui, on parle d'ailleurs d'épisodes exceptionnels, et on hésite encore à cette époque à parler d'un mot qui parlera aujourd'hui, celui de changement climatique. Mais la nature, elle, a déjà pris ses marques. Décidément, cette année 2002 n'est vraiment pas une année comme les autres. C'est aussi une année particulière. Pendant que le pays traverse ses inquiétudes, c'est aussi l'année d'un autre phénomène. Un phénomène qui ne vient ni de la politique, ni du climat, ni même du sport, mais du petit écran. La fameuse télé-réalité. 2 ans plus tôt, Love Story avait ouvert la voie, timidement d'abord, et brutalement ensuite. L'idée semblait saugrenue. Enfermer de jeunes adultes dans une maison, filmer leur quotidien, laisser la France entière observer, commenter, juger leurs actes quotidiens. Un œil de verre posé sur la vie privée, un laboratoire de comportement, un nouveau type de récit, sans auteur, sans scénario, quoique sans auteur et sans acteur, du moins officiellement. En 2002, ce n'est plus une curiosité, cela devient un débat national. Les tribunes pleuvent dans les journaux, les éditorialistes s'alarment, parle d'abaissement du goût, de voyeurisme programmé. D'autres y voient un miroir d'une époque, un reflet cru, peut-être trop cru d'ailleurs, d'une société fascinée par elle-même. Le loft devient un laboratoire moral. Dans les dîners de famille, tout le monde s'enflamme, il y a les pour, les contre, les sociologues prennent des notes, écrivent des livres, font des tribunes dans les journaux. La télévision, elle, engrange les audiences. C'est une véritable rupture, la première d'ailleurs d'une longue série. Le divertissement ne sera plus vraiment jamais le même.
Love Story, c'est avec ce programme qu'il y a un an, M6 ouvrait les hostilités de la télé-réalité en France. La version 2 du Loft a annoncé l'arrivée d'une longue série de nouveaux programmes de Real TV. Attention, à partir de cet été, vous allez en déguster de la télé-réalité et à toutes les sauces. Il y a d'abord les programmes éprouvés déclinés en version numéro 2.
Non mais tu m'agresses. Je te casserais la gueule si je pouvais.
Tu es en train de hurler, tu
commences par. Koh-Lanta notamment revient cet été sur TF1. Nos aventuriers ont quitté l'Indonésie pour le Costa Rica. Les épreuves seront, paraît-il, plus difficiles, la nature plus hostile et les animaux plus féroces. Ça promet, oui, 14 prime time pour la première chaîne pendant 14 semaines. Et aux commandes, Denis Brognard, un ancien journaliste du service des sports de TF1.
Sans cesse à vouloir devenir star, un seul vainqueur. Vous allez tout voir.
Tout voir, oui, dès la rentrée de la Star Academy sur TF1 en octobre ou novembre prochain, alors qu'M6 pourrait bien proposer à des jeunes talents, filles et garçons, d'accéder une fois encore à la gloire en devenant pop star. Place aux nouveautés maintenant, plus hard, plus cul, plus gore. Sur TF1 d'abord, bienvenue sur l'île de la tentation. Le concept, larguer 4 couples non mariés sur une île du Honduras avec une batterie de célibataires tous plus beaux et chauds les uns que les autres. Cette émission, diffusée cet été et produite par Glem, une filiale de TF1, a déjà fait un carton outre-Atlantique sur la chaîne Fox. À la rentrée maintenant, Endemol, qui produit le Loft, devrait proposer sur TF1 encore le harem. Le harem est un concept scandinave qui met en scène 4 femmes et 18 beaux gosses célibataires. Le but, former 4 couples, dont un seul, gagnera un tour du monde. Depuis lundi, sur TVA, on a mis des voiles avec Love Cruise. C'est un programme racheté à la Fox qui devrait servir de test pour Love Boat, cette fois, une autre émission de télé-réalité. Elle devrait être diffusée cet été sur M6. Sur Love Boat, 4 filles choisissent les garçons. Il y en a 100 au départ, puis 16 sur le bateau. À la fin, un seul gagnant qui choisira sa gagnante.
Pendant que l'on débat sur les nouveaux héros de l'ennui, les ondes, elles, sont prises par d'autres fièvres. Ce groupe mythique, qui existe depuis 1984, Indochine, triomphe avec la chanson « J'ai demandé à la lune ». Shakira s'installe sur toutes les playlists. Et le CD vit sa dernière décennie d'or avant que les fichiers MP3 ne commencent à ronger ses marques. La musique change, l'écoute change et le monde change. Il n'y a pas de culture sans cinéma. Et pendant que on découvre de nouvelles manières d'écouter de la musique, eh bien, il y a toujours les salles obscures, là où les énergies du pays se diluent pour mieux respirer. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, d'Alain Chabat écrase tout sur son passage. Le public rit et rit encore. Un répit bienvenu après les secousses du printemps et de l'automne.
Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides.
Des trucs pointus, là.
Je vais lui construire le plus magnifique des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte.
C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire ?
Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos.
3 mois, mais 3 mois, avec combien de temps de retard ? On a 3 mois, pas un jour de plus. C'est impossible à tenir.
Ça, c'est clair.
Il nous faut des pouvoirs magiques.
C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça.
Papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon Panobemex. Panasonex.
Un truc en X.
Rix. Astérix. Et lui, c'est Obélix.
Et le petit chien, là, c'est Idéfix.
Regarde, Gaulois, défends chèrement ta vie.
Comme du Seigneur des Anneaux, les deux tours, avec ces paysages vertigineux qui tiennent le pays en haleine et surtout les effets spéciaux qui deviennent la matrice du cinéma populaire. Tandis que Spider-Man de Sam Raimi ouvre une nouvelle ère des super-héros modernes, un peu fragiles, un peu enfants et qui renouvellent le genre. La culture populaire, la culture de masse, la culture refuge, les écrans brillent alors que dehors, la France continue à s'interroger sur elle-même. Mais le cinéma de cette époque-là, c'est aussi l'envie d'évasion. Au César, par exemple, le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet va rafler le meilleur film et le meilleur réalisateur, tandis que Michel Bouquet sera le meilleur acteur. C'est une année d'ailleurs assez faste pour le cinéma. Après « Arrête-moi si tu veux » de Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio, Bloody Sunday de Paul Greengrass fera un gros choc sur un retour de l'histoire de l'Irlande. Quand les triplettes de Belleville de Sylvain Chaumet renouvelleront aussi le genre de l'animation et Clint Eastwood, toujours présent, avec Sean Penn, Kevin Bacon par exemple, réalisera Mystic River, un magnifique livre adapté d'un livre de Denis Lien. N'était donc pas en fait une année choisie par hasard. Vous avez bien compris que c'était une année vraiment particulière. Une année qui n'a pas seulement changé la France. Une année qui l'a mise face à son reflet. L'argent nouveau, des nouvelles peurs, des nouveaux écrans, des nouvelles voix, des nouveaux orages, des nouveaux usages, des nouvelles manières de vivre ensemble, l'euro dans les mains, les SMS dans les poches, la télé-réalité dans les salons, les foules dans les rues, les eaux du Gard dans les mémoires. 2002, une année charnière, une année miroir, une année où tout a basculé et où lentement commençait à s'inventer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'était des rencontres particulières avec un œil dans le rétro pour l'année 2002. Évidemment, nous aurions parlé de plein d'autres choses sur cette année particulière. Néanmoins, vous pouvez nous retrouver tous les lundis de la troisième semaine du mois sur les ondes de Radio Escapade et en podcast sur le site de Radio Escapade. À bientôt pour une nouvelle émission des rencontres particulières.